Reportage, débat, interview, le magazine du samedi, le rendez-vous de la rédaction de Cocktail FM, le samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée aux initiatives citoyennes présentées à l'occasion de cette journée des initiatives sous la houlette du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Nous aurons autour de notre table des porteurs de projets, des acteurs du parc pour débattre autour de cette thématique « Milieu rural, la créativité ou la mort ». C'est un petit peu brutal, c'est vrai, d'entrée de jeu, mais nul doute que nos intervenants seront plutôt créatifs pour cette première partie. Eh bien, nous aurons Mireille Lab qui débutera cette table ronde, ou rectangulaire en l'occurrence aujourd'hui. Mireille Lab qui est également la vice-présidente de la communauté de communes, communauté de communes Rhin et Chérimont, qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un petit peu le lieu qui nous accueille ?
Oui, donc nous sommes ici accueillis dans une ancienne filature en cours de rénovation. Nous avons inauguré la semaine dernière des studios de répétition dans lesquels nous sommes pour l'enregistrement de cette émission. La journée des initiatives se fait en collaboration avec le parc naturel du Ballon des Vosges, qui est notre partenaire très important pour la réhabilitation de ce site.
Alors, vous avez, vous aussi, un projet qui a été présenté dans votre commune et soutenu ou accompagné par le parc. Ce sera le point qu'on aura l'occasion d'évoquer, puisque avec nous, nous avons également Francis Schirk et Anne Walter, qui sont des Alsaciens qui ont travaillé autour d'un projet citoyen également. Vos deux projets ont un dénominateur commun, c'est que ce sont les êtres humains qui ont contribué au mieux vivre sur un territoire. Alors, qui souhaite commencer par présenter son projet ? Peut-être Francis Schirk, vous pouvez nous parler un petit peu de votre contexte ?
Oui, bonjour. Juste pour situer le contexte un petit peu, moi je suis agriculteur sur une ferme en montagne vosgienne, à Molo plus précisément, et depuis une dizaine d'années, on réfléchit à la transmission de cette ferme, puisque nous on arrive tout doucement en fin de carrière, à la transmission de cette ferme, comment la faire durer, comment impliquer les gens, notre réseau de consommateurs, notre clientèle, comment l'impliquer concrètement dans notre projet agricole qu'on mène depuis 35 ans. Et donc, il y a une association qui s'est créée autour de cette ferme qui s'appelle « Autour d'une ferme pour un paysage partagé ».
Et dont la présidente,
est avec nous, c'est Anne Walter.
Oui, bonjour. Donc, cette association a vu le jour en 2006. Donc, comme le dit Francis, dans un premier but aussi de soutenir la ferme et surtout soutenir ce qui se pratique sur la ferme, faire découvrir ce qu'on a dans l'assiette, faire connaître la ferme en elle-même aux villageois et voire à la communauté des communes. Et avec différentes commissions, il y a des travaux qui viennent en aide à la ferme, les travaux de rénovation. Il y a aussi une commission juridique qui va réfléchir sur la reprise. Peut-être créer du collectif, retrouver quelqu'un. On s'est rapproché, on a fait créer aussi Terre de Liens Alsace par rapport à ça, pour essayer de trouver quelqu'un qui pourra reprendre la ferme. Voilà.
Pour cette création de l'association, quel a été l'élément déclencheur ?
L'appel des fermiers pour réfléchir ensemble, puisqu'ils se sont retrouvés un petit peu tout seuls par rapport à leur travail depuis toutes ces années sur faire du bon travail, travailler en biodynamie et vraiment trouver une aide et un soutien. Donc on était quelques personnes qui gravitaient déjà autour de l'affaire un petit peu, et on a décidé de rassembler les gens qui portaient un peu les mêmes valeurs. Et voilà, c'est ce qui a été vraiment le déclencheur. Au départ, l'appel des fermiers.
Il y avait déjà des liens qui existaient avec la communauté, entre la ferme et la communauté environnante.
Oui, bien sûr, au sein du village, au départ déjà.
Oui, bah, peut-être pour préciser, les terres qui sont donc remises en valeur par les fermiers, ce sont des terres communales. C'est des communaux qui ont été abandonnés depuis 60 ans. Et donc, pour nous, fermiers, on s'est pris de passion pour recréer des prairies, pour recréer une ceinture verte, mais aussi pour tout simplement créer du paysage. Et on trouvait que c'était pas tout à fait juste que ce soit deux fermiers qui s'occupent d'un espace aussi grand pour la communauté, puisque c'est un espace qui appartient à la collectivité.
Alors, vous avez, je le disais tout à l'heure, un dénominateur commun avec le projet que Mireille Lab va nous présenter également, c'est que ce sont les habitants du territoire qui se sont mobilisés, dans votre cas de figure, au sein d'un collectif, d'une association, pour que eh bien, ces terres continuent ou se développent d'ailleurs, et que cette exploitation surtout ne disparaisse pas. Et pour vous, Mireille Lab, là aussi ce sont les habitants, alors peut-être que c'est peut-être les élus qui au départ ont un petit peu engagé la discussion, mais avec un appel en direction des habitants.
Oui, donc c'est un concept de journée citoyenne qu'on n'a pas inventé à Ronchamp, hein, je tiens à vous le dire. Ça vient de Fabien Jourdan, qui est maire de Bervillers, un petit village d'Alsace, qui pratique des journées citoyennes depuis plusieurs années. Quand j'ai été adjointe à la mairie, je me suis renseignée et je me suis dit qu'on pourrait faire ça à Ronchamp, c'est-à-dire solliciter les gens pour leur demander comment on pourrait améliorer le cadre de vie. Le but, c'est d'abord que les gens se rencontrent, travaillent ensemble, ils ont des compétences dans des domaines variés. Et là, on a eu plusieurs réunions, des réunions avec les associations, des réunions publiques. On a tracté dans les boîtes aux lettres, on a mis des articles dans le bulletin pour appeler les gens à s'inscrire à cette journée citoyenne qui a eu lieu le 30 mai 2015. Donc, 160 personnes se sont mobilisées pour travailler. Ils ont repeint des ponts, refait les vestiaires du stade, enfin des choses qui améliorent vraiment leur quotidien. On a partagé ensemble un repas à midi et ensuite les équipes se sont retrouvées pour aider ceux qui n'avaient pas terminé. Ils ont aussi refait le chemin de croix pour monter à la chapelle de Ronchamp. Ils ont amélioré des espaces verts. On a associé aussi le conseil municipal des jeunes qui avait comme projet de faire un jardin pas tout à fait partagé, mais où il y aurait des aromates à la disposition de la population. Et ils ont planté ce jour-là leurs aromates, ils ont fait leur jardinier, mais des épouvantails aussi. Enfin. Alors les gens venaient en famille. Les enfants préparaient soit les épouvantails, soit le plantaient. Et puis les parents participaient. Il y avait une équipe qui s'occupait du repas aussi. Ça a très très bien fonctionné. Et maintenant, les gens me demandent, alors c'est quand la prochaine quoi.
Donc, alors ça crée du lien social, hein. Évidemment, dans votre cas de figure sur une journée, dans votre cas de figure pour la ferme, c'est peut-être un petit peu moins de monde, mais vous êtes confronté à être présent plus souvent, puisque là, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus régulier au fil de l'année.
Alors, on a effectivement notre noyau hein, associatif, mais on ouvre aussi la ferme au public. Et on le fait à travers les animations d'été sur des comptes à la ferme, ce genre de choses. Et on a créé aussi un jardin qu'on partage avec les récoltes qui sont aussi pour l'association. Et donc effectivement, il y a du mouvement sur l'année, il y a des chantiers qu'on organise au sein de l'association. Ça crée aussi du mouvement. Et c'est toujours, il y a une dynamique constante, ouais, ça fait avancer. Ouais.
Alors aujourd'hui, c'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges qui nous accueille, un territoire dont on sait qu'il est plutôt rural. Ce type d'expérience, vous, est-ce que vous pensez que c'est plutôt en milieu rural qu'on arrive à créer ce lien? Parce que ça semble quand même plus compliqué quand on est dans un grand pôle urbain.
Alors malgré tout, les personnes qui viennent nous voir lors des comptes viennent de la ville. Et on se pose effectivement toujours la question, c'est, ils viennent, les personnes viennent de la ville, mais vers la campagne, parce qu'ils cherchent aussi également quelque chose, sortir de la ville et aller un petit peu au vert. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on rencontre les gens de la ville. Je ne pourrais pas vous répondre si on peut le reproduire en milieu urbain, parce que je n'ai pas l'expérience, je ne le connais pas, mais... À mon avis, on peut créer, il y a toujours des manières de créer des choses, je pense que c'est possible.
En ce qui concerne les journées citoyennes, je sais qu'il y a des quartiers de Mulhouse qui organisent maintenant des journées citoyennes. La ville de Luxeuil aussi en a organisé cette année.
Donc en fait, on part d'expériences dans le milieu rural pour ensuite les transposer en milieu urbain. C'est un exemple où le milieu rural est finalement plutôt créatif, puisque c'est le thème de cette émission. La créativité, on démontre par là qu'on est totalement créatif.
Alors justement, à propos de créativité, est-ce que ces expériences, donc, qui sont, il y a eu un point de départ, mais est-ce que ça n'a pas débouché sur des choses un peu inattendues
Sur notre ferme, oui, des choses totalement inattendues, bien sûr, puisque l'association existe depuis 10 ans et il y a 18 mois, mon épouse, elle a fait un accident grave. Donc c'est un accident, c'est toujours très brutal. Et du jour au lendemain, la ferme était dans de grandes difficultés. Il a fallu parer au plus urgent, trouver des gens, trouver de la main-d'œuvre, remplacer le travail de mon épouse qui ne pourra plus travailler sur la ferme. Et donc il y a un mouvement de solidarité qui s'est créé, enfin qui était finalement assez facile à lancer puisque cette association existait. Et c'est cette association qui a porté cette solidarité, qui a permis à la ferme de faire la transition jusqu'à aujourd'hui.
Pour l'association, il n'était pas question que ça s'arrête là. On venait de mener un travail énorme sur tout ce qui est découvert du paysage. En fait, dans tout le respect dont le travail s'est déjà fait jusque-là des paysans, il n'était pas question que ça s'arrête. Et pourtant, on parlait de mettre de vendre les vaches et il n'y avait plus la fermière pour faire le fromage, la production de lait ne pouvait plus se faire. Au secours, et on a créé une action solidaire et en très peu de temps, on a créé un cercle de bienveillance. Ça a été magique. La ferme est encore là aujourd'hui. On a payé maintenant un an et demi des salariés pour remplacer effectivement les paysans pour pouvoir continuer. Et voilà, on avance et effectivement, on a 300 donateurs qui interviennent et qui sont là à présent maintenant et qu'on va garder communiquer avec eux. Je crois que la communication est très très importante à ces moments-là. Et on continue à travailler dans ce sens-là. C'était une belle expérience en tout cas.
Merci pour ce témoignage. Mérilam, peut-être encore un mot?
Moi, je n'ai pas constaté quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est que les gens en redemandent. Donc c'est, pour moi, le but est atteint.
Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Cocktail FM et Azur FM, puisque c'est une coproduction Cocktail FM et Azur FM, eh bien, on vous demande de rester bien sûr à l'écoute, puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour un deuxième témoignage, une deuxième expérience à l'occasion de cette journée des initiatives à l'initiative du parc régional des Ballons des Vosges.
Le week-end sur Cocktail FM, week-end. La radio des Hauts-de-Vosges.
Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Combien de farces, combien de frasques, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Plonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes reviennent et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Magazine du samedi, le samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Voilà, retour dans notre magazine consacré à cette journée aux initiatives en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. On va aborder un second thème donc ce matin consacré à des activités qui créent du lien social dans ce parc. Avec nous donc Marie-Claire Schaffhauser de Lautenbach, donc qui mène un projet autour d'une activité créative qu'on peut penser parfois passéiste. Alors, vous pouvez nous en dire un petit mot.
En fait, c'est trois idées qui se rejoignent pour finaliser ce projet. La première, c'était effectivement lors de la campagne électorale, campagne hein, entre guillemets, où on disait on s'engage à créer du lien social sur nos deux villages. Le deuxième, c'était un jour une commission culture qui dit nous on veut plus, lors des réceptions ou des pots d'accueil, des pots de nappes en papier. C'est pas beau et c'est pas bon pour la planète. Et le troisième, c'est le Parc des Ballons qui lance un appel à projet pour créer du lien social. Donc voilà, pourquoi pas créer des nappes en tissu, brodées ou décorées, qui serviront donc aussi bien aux manifestations communales qu'associatives lors des pots, des cérémonies.
Et donc avec nous également le maire de Roth, M. Bernard Florence, bonjour.
Bonjour.
Alors là aussi, un projet qui nous renvoie vers le passé, mais là aussi avec une idée moderne, donc remettre au goût du jour donc, les vrais jeux de quilles comme dans le passé.
Pas tout à fait, c'est plutôt l'inverse, c'est le passé qui nous renvoie vers le futur. Parce que la situation, c'est que ceux qui ont 90 ans aujourd'hui, quand ils évoquent leurs souvenirs, évoquent ces jeux de quilles très souvent. Leurs petits jeunes qui ont 60 ans quand même de nos jours se souviennent d'avoir fait de l'argent de poche en ramassant les quilles. Et leurs enfants qui ont 40 ans de nos jours se disent c'est quoi jeu de quilles, moi-même bowling, j'y vais pas. Quoi. Donc le projet, c'est de créer du jeu social. C'est pas de créer du jeu, c'est pas uniquement ludique, c'est du jeu social, donc de la concertation, du débat, de la discussion.
Alors justement, c'est un petit peu le dénominateur, hein. C'est pour ça qu'on vous a convié dans cette séquence de l'émission, c'est pour parler un petit peu, on prend un objet, on prend un outil, la nappe, le jeu de quilles, pour créer une rencontre autour des habitants, encore une fois, puisqu'on est un petit peu dans le même contexte et qui est propre au Parc des Ballons, c'est d'être en milieu rural et d'amener les gens à développer quelque chose ensemble qui ensuite est utile, qui permet de discuter. Vous évoquiez la discussion. Donc c'était un petit peu ça aussi, c'est que les gens se retrouvent, qu'on puisse parler, qu'on puisse avoir un projet commun.
Pour nous, c'était clairement ça. Parce que Rhône et la ruralité, c'est une volonté de rester rural. Si on ne garde pas cette ruralité, on s'urbanise très vite et on va vers quelque chose d'un peu indifférent. Donc on tient cette ruralité, on tient donc à une vie communale avec des liens sociaux qui sont resserrés autour de différentes activités dont cette activité n'est qu'un des supports.
C'est justement du lien, c'était un engagement. Vous disiez, Mme Schaffhauser, que c'était un engagement politique, c'est-à-dire qu'au moment de la campagne, vous vouliez créer du lien social. C'était donc un des outils, un des engagements.
Tout à fait, un objectif très clairement posé. Et donc, c'est vrai que pendant que les dames, disons, ce sont les dames qui viennent broder, eh bien, d'autres viennent faire de la musique, lire un texte, raconter un conte. On va également essayer d'impliquer les enfants des écoles. Ils ne feront pas de la broderie, mais peut-être qu'ils feront des pochoirs. On va essayer d'intégrer aussi les collégiens, avec le prof d'art plat, peut-être, pourquoi pas une nappe taguée. On essaiera quand même, dans la mesure du possible, de maintenir le thème du tilleul, le tilleul de Lautenbach. Vous connaissez peut-être à travers le roman de Jean Hegen. Voilà, en tout cas, c'est notre symbole, c'est les tilleuls. Hein, le collégial est entouré de tilleuls, et donc on tient à ce thème-là. Mais après, on voudrait que ce projet soit vagabond, qu'il prenne des chemins de traverse au fil des rencontres et des choses qui vont se passer.
On s'aperçoit en effet que dans des projets, puisque nos auditeurs au fil de l'année passée ont pu découvrir chaque semaine des initiatives citoyennes qui ont été mises en avant grâce à cette chronique soutenue par le Parc des Ballons, une chronique qui s'intitule « Une autre vie s'invente ici ». Et certaines initiatives qui ont pu se créer dans une vallée ont finalement été dupliquées ou modifiées ou changées selon les besoins d'un territoire sur d'autres vallées, parfois même dans la plaine. Et c'est ça aussi un petit peu la richesse. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui que ce que vous créez dans votre commune, avec votre identité, puisse servir de levier pour être dupliqué ailleurs?
En ce qui concerne Noro, c'est vrai que dans les jeux de quilles du versant du soleil, c'est fait pour être dupliqué ailleurs. C'est l'objectif premier. Parce que c'est un projet qui a mobilisé des savoir-faire très divers. Il ne s'agissait pas de reproduire quelque chose qui existait, mais de le réinventer. Et pour réinventer, de mobiliser de multiples compétences. Il fallait des spécialistes en béton pour créer une dalle qui supporte les variations climatiques. Il fallait des gars qui soient capables de faire ça au bon moment, au bon endroit, avec le bon fournisseur. Il fallait d'un autre côté des artisans capables de mobiliser leur imagination pour tourner des boules pour les quilles et tourner des quilles de forme nouvelle, mais en même temps stabiliser ce savoir-faire-là pour pouvoir le proposer à d'autres dans le massif pour les années à venir, s'il y a des projets du même type ou d'autres types qui y ressemblent.
Est-ce que vous avez eu aussi une dimension intergénérationnelle, un peu comme dans l'autre projet ?
Oui, forcément, puisque on fait référence aux plus anciens, mais c'est les quadras, et même les plus jeunes qui s'intéressent à cela. C'est vrai que quand on demandait à ceux qui aujourd'hui ont dans les 60 ans, qui ont encore des souvenirs de ces jeux de quilles d'antan, quel est le rôle des jeunes, ils disaient ramasser les quilles, et puis en échange ils ont un peu d'argent de poche. Les jeunes du conseil municipal des jeunes d'Oro en particulier ont répondu très clairement, non, c'est pas ça, nous on a d'autres idées de jeux de quilles qu'on peut jouer sur l'herbe et d'autres jeux de ce type là qu'on proposera en parallèle. Donc il y a vraiment de l'intergénération qui se joue à ce moment-là. On n'est pas dans la reproduction, on est dans l'innovation, dans la réinvention, dans la création de nouvelles relations sociales.
Alors des relations sociales, du lien social, et on en revient aussi à notre thème, puisque ce sont des initiatives citoyennes où les générations se retrouvent pour proposer de nouvelles idées, de telle sorte à ce qu'on fasse avancer la dynamique d'un territoire au travers de certains outils. Est-ce qu'aujourd'hui vous réfléchissez à d'autres projets, d'autres actions qui pourraient être menées dans vos communes, qui pourraient fédérer d'autres groupes par exemple, puisqu'on évoquait hors antenne en début de discussion, le jeu de quilles étant plutôt masculin, la broderie étant quelque chose de plus féminin, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé un petit peu au pendant ?
Oui, nous, on réfléchit au fait d'apposer sur des maisons des photos de la même vue, mais 50 ans en arrière. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait solliciter les messieurs pour nous encadrer les photos. Voilà. Donc, au même titre qu'on fait la broderie avec les dames, il y aurait un atelier menuiserie encadrement pour les messieurs à terme.
Et une question que je souhaiterais également vous poser, puisque c'est le parc qui nous reçoit aujourd'hui, le parc, est-ce qu'il y a une contribution logistique dans votre projet? Est-ce qu'il y a eu une écoute et des conseils? Et est-ce qu'il y a eu une aide financière aussi dans ce projet?
Oui, une aide financière importante qui représente 40% de l'ensemble du budget nécessaire. Mais le parc est le partenaire de la commune de Rhodes depuis 1989. Et si aujourd'hui la commune de Rhodes est sur l'ensemble de son territoire en Natura 2000, s'il y a des améliorations pastorales, s'il y a aujourd'hui de l'écotourisme, s'il y a des agriculteurs qui continuent à mener leur activité, à exploiter leur activité de production fromagère, c'est en grande partie grâce au parc.
Et pour nous, pour ne parler que de ce projet-là, du fil au lien social, effectivement, c'est grâce au parc et à Brigitte en particulier que le projet a pu s'affiner et prendre la forme qu'il a pris actuellement.
Alors vous, en tant qu'élu, c'est un message que vous passez aussi à d'autres responsables.
Ben nous, on serait très heureux que ce projet voyage. Hein, c'est vrai qu'on a, on s'arrête pas à la broderie. D'abord, on a découvert un tisseur tout près de chez nous, hein, à Hattstadt, près de Colmar. On voudrait aller visiter, du côté vosgien, une filature. Et on a même un projet à plus long terme d'un partenariat interparc avec le parc des Baronnies Provençales. Parce que Bouillon-Baronnie est vraiment la capitale du tilleul, où ils créent donc la liqueur de tilleul, qu'on a nous pris à notre compte pour créer le kir Jean Hegen, donc le kir tilleul, Crémant d'Alsace.
Merci pour ces quelques précisions concernant vos projets. Peut-être avant de vous laisser repartir, quelques mots. Combien d'habitants dans vos communes pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu la dynamique qui peut exister dans ces communes rurales?
Oro, 353 habitants permanents, une cinquantaine de résidences secondaires et l'équivalent de 300 à 400 habitants en été, pendant la saison touristique en plus.
Ouais. Et une très belle vue sur la vallée de Münster d'ailleurs.
Et le balcon de la vallée de Münster, oui. Vue sur le Honeck.
Et donc la commune de Lautenbach, qui comprend Lautenbach et Schweikhouse, c'est 1600 habitants.
On vous remercie pour ces précisions, pour ces projets que vous avez défendus avec passion. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission consacrée réellement au parc et à ses projets. Et à quoi sert ce parc sur son territoire? Un territoire, somme toute, relativement étendu. C'est ce qu'on verra dans quelques instants.
Cocktail FM. Thank you.
parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent nous portera.
Magazine du samedi, le samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
De retour pour la dernière partie, la dernière séquence de notre émission spéciale à l'occasion de la journée des initiatives du parc naturel régional des Ballons des Vosges. C'est une autre vie qui s'invente ici puisque toute l'année sur Cocktail FM et Azur FM, des chroniques régulières mettent en avant des initiatives citoyennes, des initiatives qui sont d'ailleurs soutenues par le parc. Et pour cette dernière partie, on souhaitait vraiment présenter ce très grand ensemble, puisque le parc se trouve sur un territoire très étendu, hein, qui couvre plusieurs vallées, voire même certains versants de plaine. Et nous avons avec nous le président du parc, M. Séguin. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter d'abord le parc naturel, quelle est sa fonction sur ce territoire ?
Bonjour, effectivement le parc est très étendu puisqu'il s'étend aujourd'hui sur trois régions, hein, Alsace, Lorraine et Franche-Comté, et sur quatre départements, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. C'est près de 200 communes qui sont concernées par ce territoire du parc, avec des territoires qu'on pourrait juger différents mais qui en fait sont très complémentaires et reliés par la Grande Crête des Vosges. Donc la Grande Crête des Vosges est un des territoires emblématiques du parc qui a valu sa création à l'origine avec une connotation très environnementale au départ, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a des vallées et piémonts de part et d'autre, et un autre secteur tout proche d'ici, qui est le plateau des Mille Étangs, qui a son projet spécifique dans la charte du parc.
Ça représente combien d'habitants et combien de communes ?
Le parc naturel régional des Ballons des Vosges est sur 200 communes, potentiellement. Il est le plus peuplé de France, 238 000 habitants.
C'est un territoire donc très important et on en parlait durant ces deux premières séquences, essentiellement sur des territoires ruraux, puisque les initiatives qui ont été mises en avant sont systématiquement des initiatives citoyennes sur des territoires ruraux. C'est un choix ?
Souvent les parcs à l'origine sont quand même créés autour de territoires d'exception, de territoires préservés. Et c'est vrai que ces territoires préservés, souvent, ils sont dans le monde rural, dans le monde montagneux. Voilà, et c'est pour ça que la plupart des parcs sont ruraux. La plus grande ville de notre parc doit être Ribeauvillé ou peut-être Gérardmer. Je ne sais pas laquelle des deux est la plus grande. Alors même si nous sommes entourés de villes-portes ou d'agglomérations-portes très importantes, le parc est essentiellement rural, c'est vrai.
Des compétences assez diverses, puisqu'on parle d'initiatives citoyennes, mais il y a également des bâtiments où on peut retrouver des antennes du parc et des conférences qui sont organisées dans ces lieux, des rencontres avec des habitants, avec des conférenciers. Peut-être quelques mots là-dessus ?
Alors, si le parc a souvent une connotation environnementale et cette réputation-là d'être un protecteur de l'environnement, ce qui n'est pas faux, Il est aussi un territoire sur lequel on travaille sur une économie particulière, sur de l'agriculture, sur du tourisme, de l'écotourisme, du développement durable de ce territoire, mais également sur un urbanisme durable, et c'est vrai pour ce qui nous concerne aujourd'hui, sur du lien social, sur de la culture.
Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est notamment le soutien à des initiatives citoyennes, puisque la chronique présentée sur nos radios met en avant un certain nombre de ces initiatives. Elles sont notamment valorisées aussi aujourd'hui à l'occasion de la journée des initiatives. Vous êtes accompagnée de Brigitte du Parc des Ballons. Brigitte, peut-être quelques mots sur ces lauréats et sur ce fonctionnement, comment ça marche, ce soutien aux initiatives citoyennes.
L'appel à projet, en fait, est destiné aux citoyens, aux associations, aux collectifs d'habitants. Et il faut qu'ils aient un projet qui soit pas très important, qui soit à leur dimension, quelque chose qu'on puisse aider à mettre le pied à l'étrier. Donc, fallait que le budget soit de l'ordre de 5000 euros maximum. Et le parc apporte un soutien technique, essentiellement déjà pour les aider à réfléchir ensemble, à construire ensemble. Et puis ensuite, on pouvait apporter une bourse qui allait jusqu'à 2000 euros maximum. Et pour les plus petits projets, c'est 80% des dépenses engagées.
Et puis un soutien médiatique également, puisque un certain nombre d'entre eux ont eu l'occasion au fil de l'année d'être présentés à l'antenne des radios et puis de rayonner sur des territoires très étendus.
Oui, tout à fait. Et puis la journée d'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour les uns et les autres de se rencontrer et j'allais dire de faire un transfert d'une idée qui a été faite quelque part, de l'appliquer au contexte local. Et là, on voit dans les discussions toute la journée, il y a même des maillages qui se font entre les uns et les autres en se disant « mais mon projet à moi, il pourrait continuer comme ça ou je peux venir chez toi expliquer comment on a fonctionné. » Donc, c'est vrai que la bourse et l'aide au montage technique au départ du projet, c'est que un des éléments de l'accompagnement des projets. Quoi.
Alors, on a un dénominateur commun, mais il y a des projets assez diversifiés. Il peut y avoir de l'échange de services quand, dans la vallée de Munster, une association échange une compétence, je répare un poste radio. En contrepartie, la personne obtient une aide pour faire un peu de jardinage, etc. Les initiatives sont très diversifiées. Il y a quelques initiatives qui ressortent.
Je ne sais pas si je parlerait d'initiatives plus de types d'acteurs avec lesquels on travaille et pour lesquels on n'avait jusqu'alors pas trop l'habitude de travailler. Par exemple, je me suis rapprochée des services du département des assistantes sociales qui m'ont aidée à trouver des rapprochements avec des gens qui sont plus des bénéficiaires avec qui le parc travaillait peu, mais pour lesquels justement on se dit qu'il y a sans doute quelque chose à faire. C'est des gens, par exemple, un autre parc, Scarpesco, travaille aussi avec ce type de public et s'est rendu compte que c'était des gens qui sortaient peu de chez eux, qui ne découvraient pas, qui n'allaient pas marcher dans la forêt, qui ne connaissaient pas les producteurs locaux. Et il y a tout un travail qui a été fait dans ce parc-là sur ces questions. Et je pense que nous, on labellise certaines sorties, par exemple, randonnées avec certains accompagnateurs. Et ça pourrait très bien être pertinent de travailler avec les acteurs sociaux pour permettre justement que des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller marcher, qui ont moins le temps, qui se sentent moins concernés ou qui n'ont pas cette habitude de familiale, on va dire, cette éducation entre guillemets, cette sensibilité puisse aussi vivre leur territoire complètement comme peuvent le faire des touristes qui, eux, en font une destination.
On est vraiment dans l'esprit du parc, hein, donc avec des valeurs partagées qui mettent vraiment l'humain au cœur du projet, au cœur du territoire. On est dans notre rôle principal dans ce domaine du lien social comme dans d'autres, parce que nous sommes les 51 parcs naturels régionaux de France, territoires labellisés qui d'ailleurs provoquent un peu d'envie, puisqu'il y a d'autres territoires qui aimeraient être des parcs. Nous sommes des territoires d'expérimentation, nous innovons, et lorsque nous réussissons, nous transmettons, et nous transmettons ce que nous faisons bien au-delà des territoires des parcs.
Alors le parc, c'est aussi, je pense, un acteur de développement local, un acteur voire même de développement économique. Les relations, on a eu tout à l'heure un exploitant agricole qui témoignait de son expérience et de l'aide qu'il avait obtenue grâce au soutien du parc, et bien sûr des habitants et des bénévoles qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, les relations que peuvent entretenir le parc et les exploitants agricoles, ou voire même les fédérations, quelles sont-elles ?
Je dirais qu'elles sont excellentes, je ne pourrais pas dire le contraire. Et d'ailleurs, le parc est régi par des statuts, et dans ces statuts, il est prévu que la société civile ait une place importante. Dans le comité syndical du parc, il y a 21 personnes personnes issues de la société civile et 61 élus. Et ces personnes sont des forces de proposition. Ces personnes ont la voix au chapitre autant que les élus. Et nous sommes à leur écoute.
Par rapport à l'exploitation dont on a parlé tout à l'heure, et pour rebondir sur ce que disait Laurent Seguin par rapport au rôle d'expérimentation du parc, il y a une dizaine d'années, on avait accompagné un réseau d'agriculteurs dans une vallée et on avait invité un artiste conteur à venir en résidence. Il a partagé leur vie pendant 2 mois et demi, je crois. Et puis à la fin, il a créé un spectacle qui était lui aussi diffusé dans les exploitations agricoles, qui permettait de comprendre le rôle de l'agriculteur aujourd'hui, quel était son quotidien, et puis de lier les contes et légendes traditionnelles avec la vie aujourd'hui. On parlait aussi de normes européennes. Enfin, c'était vraiment une façon d'ouvrir l'exploitation à un public qui n'a pas l'habitude d'aller les voir. Donc on est là aussi dans une expérimentation, et quand on tisse un lien avec un acteur ou un groupe d'acteurs, très souvent, au bout de quelques années, il y a autre chose, une autre interrogation qui arrive, et on reforme des groupes de travail transdisciplinaires, et on débouche sur une réflexion collective qui permet de créer quelque chose de nouveau, et voilà, on prend le temps d'expérimenter avec eux.
Et tous ces projets, ces expérimentations, donc c'est du concret, mais est-ce que ça débouche aussi parfois, est-ce que ça va au-delà, vers un développement économique par exemple dans une activité ?
Ça peut déboucher effectivement sur du développement économique, puisqu'on parlait de ruralité, souvent la ruralité a une image un petit peu désuète, voilà, on a l'impression que ce sont des territoires où il se passe moins de choses qu'ailleurs, et souvent cette image est aussi colportée par les habitants même de ces territoires. Alors qu'au contraire, le parc, à travers ses initiatives et avec la société civile, s'oriente vraiment vers une ruralité moderne, une ruralité exemplaire. Et donc, forcément, tout ça, c'est vecteur d'économie. Parce que quand on renforce l'attractivité d'un territoire, on va renforcer l'économie à travers les gens qui viendront s'y installer, à travers les activités qui viendront s'y installer, toujours dans l'esprit du parc et avec une éthique particulière.
Et une de mes collègues travaille en ce moment dans un projet qu'on appelle Écoparc et qui permet de mettre ensemble autour de la table des entreprises, des auto-entrepreneurs qui réfléchissent ensemble comment mutualiser leurs compétences et créer des débouchés nouveaux. Et puis elle travaille aussi sur la question de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de prendre à bras-le-corps là.
C'est un projet que nous avons eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer et qui notamment crée du lien social, puisque ces petits entrepreneurs qui sont vraiment des micro-entrepreneurs se rencontrent et puis au lieu de se retrouver isolés, confrontés seuls à certaines difficultés, il y a cet échange qui se crée parfois avec le parc, mais parfois tout simplement entre eux pour qu'ils puissent rebondir et repartir et gagner en dynamique. Donc ce sont peut-être aussi ces éléments-là, des projets parfois de taille modeste que le parc doit soutenir dans la ruralité pour qu'ils aient la possibilité d'avancer, de se développer, au moins d'exister, de continuer à créer.
Oui, comme le disait Brigitte tout à l'heure, les projets sont adaptés au public concerné. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le grandiose, comme on pourrait le voir dans de grandes agglomérations, mais par contre, on est vraiment au cœur des attentes des habitants, et on provoque aussi la visite de personnes qui viennent de l'extérieur et qui souvent s'inspirent de ce que l'on fait dans le parc pour l'emmener dans les villes.
Et par exemple, aussi tout un travail qui est fait sur l'habitat, l'éco-habitat et les techniques de rénovation de l'habitat pour limiter les départitions de chaleur, et travailler aussi avec les artisans autour de savoir-faire ou anciens remis au goût du jour ou nouveaux avec des ressources locales. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'investit en ce moment.
Laurent Seguin, mot de la fin.
On lance également, et c'est vrai, des partenariats avec des producteurs locaux, avec les produits du terroir, puisqu'on parlait d'économie tout à l'heure. Et je voudrais signaler qu'il y a aussi une marque Parc que l'on dédie et qu'on attribue à certains produits, à certaines entreprises, certains artisans qui répondent tout à fait à l'esprit du parc, à l'esprit de sa charte. Et donc, on est vraiment au cœur du développement économique du territoire.
Merci, Laurent Seguin, donc président du parc naturel régional des des Ballons des Vosges. Et merci également à Brigitte Herberts pour vos explications, responsable du pôle culture. Des initiatives, bien sûr, on en retrouvera encore tout au long de l'année dans notre chronique « Une autre vie s'invente ici » sur Cocktail FM et sur Azure FM. Merci de votre attention.
Reportage, débat, interview, le magazine du samedi, le rendez-vous de la rédaction de Cocktail FM, le samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.